Maintenant, l'enregistrement est déclenché et je passe la parole à Julia Steinigen et Cassandra Klaus, qui sont étudiantes auprès de la Faculté des langues et des lettres de l'Université de Dresde et qui font des études de français pour devenir prof de français, donc français et pédagogie, et donc qui vont animer ce débat et qui vont vous expliquer tout de suite l'idée de ce débat. Voilà.
Ah oui, premièrement, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue et nous, Julia et moi, on est heureuses de vous accueillir ici pour notre débat sur le thème l'enseignement scolaire sous l'influence de la numérisation. Moi, je m'appelle Cassandra Klaus et là, c'est Julia Steinigen, ma camarade. Oui. En étant qu'équipe, on fait partie d'un groupe d'étudiants qui, sous la direction de Monsieur Thorsten König, participe au séminaire du projet Utopie numérique, Utopie Europe, en allemand Digital Utopie, Utopie Europa, qui fait partie de l'appel à proposition dans le cadre du Bureau de coopération universitaire de l'ambassade de France et l'Université franco-allemande. En raison de notre propre intérêt pour le thème de l'éducation scolaire et aussi universitaire, Madame Steinigen et moi-même, nous avons l'intention de travailler sur le thème de la numérisation d'un point de vue scientifique ainsi que d'un point de vue personnel dans le cadre de notre débat l'éducation scolaire sous l'influence de la numérisation.
D'accord. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Okay. Donc, on peut constater que la numérisation est un processus significatif dans notre société occidentale moderne et surtout la situation pandémique actuelle a montré, et ça dépend de l'endroit, montre encore. Les différents aspects de la numérisation dans le système scolaire. Et l'objectif de ce débat sera la discussion de si ces différentes dimensions, donc techniques, aussi infrastructurelles, mais aussi sociales, de ce processus de la numérisation dans le contexte scolaire. Tout d'abord, avant de commencer, juste un petit plan du débat. Donc, après une discussion très brève du mot numérisation et sa signification, on voudrait bien discuter les chances des nouvelles techniques dans le quotidien et à l'école, mais aussi les risques avec lesquels les professeurs, les élèves, les étudiants et étudiantes, mais aussi la société en général sont confrontés.
Et exactement pour cela, on a invité notre quatre invités. C'est premièrement Monsieur Bruno Delièvre. Bonjour Monsieur. Elle vient de l'Université de Mons en Belgique et elle travaille sur la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Elle est chef du service d'ingénierie pédagogique et numérique éducative et il est aussi conseiller du recteur aux stratégies numériques pour l'enseignement. Oui, bonjour. Après, c'est Monsieur Martin Hank. En ce moment, il travaille dans le bureau fédéral pour l'école et l'éducation en Saxe. En allemand, c'est LASO, pour tous les collègues de LASO. Et il est aussi ancien professeur du français. Et il est responsable du développement de la qualité dans l'éducation aux médias. Bonjour, Monsieur Hank. Après, c'est une étudiante française, c'est Louise Trumel. Elle est, comme j'ai dit, étudiante français comme langue étrangère à l'Université du Rouen. Et en ce moment-là, il est en stage à Pécs, en Hongrie. Bonjour. Et aussi, Maria Fritsch, elle est une étudiante allemande de français et d'histoire à l'Université technique de Dresde. Et elle a fait une stage pour un demi-an comme assistante de langue en France.
Donc, je voudrais bien commencer par une question un peu générale, peut-être par Monsieur Delièvre. Donc, Monsieur Delièvre, qu'est-ce qu'est la numérisation pour vous?
Bien, d'abord, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir accueilli et invité. Je suis très flatté d'avoir cette conversation avec une université allemande. Nous n'avons pas tellement de contact avec les universités allemandes, donc c'est pour moi un enrichissement supplémentaire. Alors, pour répondre à cette question, mais je crois qu'on peut répondre très techniquement, ça veut dire numériser. De façon étymologique, ça veut dire transformer en nombre. Donc, ça veut dire qu'une réalité comme une photo, comme un document écrit, on le transforme en 1 et en 0 pour le mettre à disposition sur un support qui va être numérisable et donc qui va permettre de le transférer via la voie du numérique. Voilà, ça c'est technique, ça n'a pas grand-chose, soit c'est pas intéressant, c'est la base en fait. Après, je pense qu'il faut distinguer la numérisation à trois niveaux. Le premier, c'est celui dont vous avez parlé et qui sera l'objet du débat tout à l'heure, c'est le numérique, hélas, est souvent confondu avec les outils numériques. C'est-à-dire qu'on pense que le numérique, ce ne sont que des outils. Et c'est un gros problème dans l'enseignement, c'est de considérer que les outils pourraient remplir une fonction pédagogique sans que l'enseignant ne soit formé à ces outils. Et donc, mon deuxième niveau, c'est celui du niveau pédagogique. Enfin, qu'est-ce que la pédagogie qui implique le numérique, qui intègre le numérique? Et là, on est dans une réflexion qui est que le numérique, pour les enseignants, ça doit être un outil au service d'objectifs. Et donc, on est dans une autre dimension. Et le troisième niveau, c'est celui que vous avez évoqué dans l'introduction, c'est que notre société est dans une culture dans laquelle le numérique est partout. Ça veut dire que si on veut que nos enfants, que nos élèves, que nos anciens soient aujourd'hui intégrés dans la société, eh bien, il faut qu'ils aient un minimum de culture numérique pour pouvoir vivre dans cette société qui est là. Alors, ça représente évidemment des facilités, des difficultés dont on parlera tout à l'heure, mais voilà les trois niveaux par rapport auxquels je pense qu'on peut définir, sans que ce soit exhaustif ni complet, le numérique aujourd'hui dans notre société.
Merci beaucoup, Monsieur Delièvre. Monsieur Arndt, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être par rapport à l'administration? Qu'est-ce qu'est la numérisation pour vous?
Alors d'abord, je suis très très d'accord avec Monsieur Delièvre, mais vu au mot numérisation, je me suis toujours demandé pourquoi la langue française là a s'est débarrassé de ses racines latines. Parce qu'en fait, pour nous, on dit « digitalisierung » qui vient de « digitus », le doigt. Alors, on rend des choses quantifiables. Alors, on peut les compter. Pour les Français, c'est plus facile à comprendre parce qu'on dit « numériser ». Alors, la langue française a bien traduit le processus technologique pour les francophones. Alors, c'est plus facile à comprendre ce premier niveau qu'on a décrit tout à l'heure. Mais si on parle de choses quantifiables, il faut aussi savoir que ce n'est pas de rien que dans les sciences, on a les sciences de quantité et de qualité. Alors, on réduit des choses. Pour les machines puissent traiter tous ces contenus, il faut les réduire, il faut les en numéros ou en chiffres. Et là, c'est toujours intéressant parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il reste si on réduit des choses dans un processus technologique qui vient de transformer notre vie quotidienne? Qu'est-ce qu'il reste de choses qu'on ne peut pas quantifier, qu'il reste des éléments de qualité pour les montrer dans cette interaction de l'être humain avec la technologie. Et là, on vient bien à ce niveau pédagogique où on peut poser la question, si dans la pédagogie, on n'a pas toujours la technologie qui est la chose la plus importante, on vient des objectifs, on a un but pour faire quelque chose. Et là, on a toujours dit la technologie suit la pédagogie. Alors, d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire dans mon cours? Quels objectifs? Quel but? Est-ce que je veux arriver avec mes élèves? Et si là, je veux parler de la société, du vie quotidien, il faut absolument aussi parler de la numérisation, parce que ça fait partie. Mais là, il faut savoir, parce que le moyen numérique, les outils numériques, ça donne pas, c'est pas seulement le moyen qui donne un sens, c'est toujours l'emploi. Et si on parle de l'emploi, on est dans une dimension performative, et là, on a besoin des compétences. Alors, ça nécessite des compétences. Et là, on peut fermer cette parenthèse, parce que si l'emploi d'un outil numérique, soit dans un contexte pédagogique ou la vie quotidienne, nécessite des compétences, pour acquérir des compétences, il est impérativement nécessaire de pratiquer. Alors, il faut le pratiquer quelque part. Et ça, c'est une chose qui est importante pour les élèves, mais dans les derniers mois, on l'a vu pendant le confinement et la pandémie, on a bien vu dans l'état où on est maintenant, il est très, très important pour les professeurs d'abord de pratiquer, d'acquérir ces compétences pour pouvoir les donner aux enfants. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement dire OK, il faut acheter des moyens numériques, il faut les rendre accessibles à l'école. Ça sert, c'est un pas, mais il y en a quatre autres qu'il faut faire en même temps. Oui, et ça c'est un petit début. Ouais. OK.
Ouais. Oui, je suis désolée, je n'entends pas bien. Je ne sais pas, c'est mon ordinateur. Mais quand même, je voudrais bien demander aussi à Louise et à Maria ce thème de numérisation, pas sur le point de vue scientifique, mais quelle est votre position tout d'abord en entendre le mot numérisation? Peut-être d'abord Louise si...
Est-ce que vous m'entendez bien? Du coup, moi, la numérisation, ça me fait vraiment penser à tout ce qui est outils informatiques, puisque c'est de plus en plus utilisé dans les classes ou même en université. Après, moi, je peux parler que par rapport à ma propre expérience, puisque j'ai aussi vécu des cours en ligne ces derniers mois. Et donc, du coup, le fait de devoir avoir son propre outil, savoir comment l'utiliser, avoir une connexion Internet qui soit à peu près correcte, on va dire. J'ai d'ailleurs eu un problème au début, je m'en excuse. Et c'est des choses qu'il faut apprendre et c'est vrai que ce n'est pas forcément inné pour tout le monde.
D'accord, merci. Et Madame Fritsch?
Oui, la numérisation peut ouvrir de nombreuses possibilités. Par exemple, cela peut également assurer une meilleure visualisation, ce que joue également un rôle important dans l'enseignement, je trouve. Cependant, de mon point de vue, cela a aussi un côté négatif. Car probablement dans de nombreuses professions, on a moins besoin de moins d'œuvres parce qu'elle est remplacée par des machines.
D'accord, merci pour toutes les réponses aussi longues. Mais maintenant, je voudrais bien passer à la deuxième question et s'approchant d'abord par les idées théoriques et aussi peut-être un peu pratiques. Quelles sont les conditions préalables pour l'enseignement numérique réussi? Peut-être premièrement, pardon, Monsieur Hunt, pour vous.
Oui, en fait, pour que ce soit bien intégré à l'école, il y a plusieurs, on peut dire, champs d'action qu'il faut travailler, alors des domaines d'activité. On vient de dire, oui, il est important de la formation des professeurs. Il faut avoir des médias éducatifs. Il faut avoir des objectifs. Alors, dans les programmes ou les curriculums, il faut avoir des points qui reflètent la nécessité de traiter le numérique à l'école. Parce que si cela n'existe pas, le numérique ne reste qu'un outil numérique dans un processus éducatif, mais il faut aussi être l'objectif. Alors, il faut parler de la numérisation comme objectif dans un processus pédagogique. Mais en plus, il faut avoir l'infrastructure, l'équipement, il faut avoir des coopérations avec des externes, avec d'autres professeurs. Et surtout, c'est un point de vue qui... Oui, l'importance de ce point de vue, on vient de voir dans les derniers mois, pendant cette pandémie, ce sont des conditions légales. Alors, qu'est-ce qu'il est interdit? Qu'est-ce qu'on peut faire au point de vue légal? Les données privées ou l'utilisation du numérique à l'école. Et puis, un dernier champ ou domaine d'action ou d'activité qui est très important, c'est l'administration. Quelles sont les structures qui sont fournies par l'administration pour que le processus éducatif à l'école puisse intégrer vraiment le numérique? Et là, je viens de nommer 7 domaines d'activité. Et nous, il y a 3 ans, on a écrit et publié une conception. Ça s'appelle... Éducation aux médias et numérisation à l'école. Et là, on vient bien de décrire tous ces 7 champs d'action ou d'activité qu'il faut développer en même temps. Alors, ça ne vaut rien, je me répète dans ce point, il ne vaut rien d'équiper les écoles sans fixer des objectifs dans les programmes. Ça ne vaut rien de fixer des objectifs dans les programmes sans former les professeurs. Il ne faut pas former les professeurs si on n'a pas l'infrastructure et l'équipement ou si on n'a pas de médias éducatifs numériques. Alors, il y a plusieurs domaines qu'il faut traiter en même temps et ça montre bien qu'on ne peut pas faire des très grands pas dans les différents domaines. Il faut les développer un peu fur et à mesure, mais synchroniser. Et ça, c'est le plus grand défi pour l'intégration du numérique à l'école qu'il faut relever maintenant. OK.
Merci. Je voudrais bien aussi écouter l'opinion de M. Delièvre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou pas confirmer ou, oui.
Oui, d'abord, je pense que ce que M. Hahn vient de dire est évidemment tout à fait adéquat. Moi, je voudrais insister sur un aspect important concernant cette question quand on parle des conditions préalables pour un enseignement numérique réussi. Pour moi, il sera réussi quand on ne parlera plus du numérique. Ouais. Ça veut dire que quand le numérique sera tellement intégré dans les pratiques pédagogiques qu'en fait, on n'aura plus besoin d'en faire quelque chose à part. Et là, on aura réussi. Et aujourd'hui, on est loin de ça. Hélas. Parce qu'il y a les convaincus, il y a les gens qui sont sur le chemin, et puis il y a ceux qui pensent qu'ils doivent s'en passer, qu'ils peuvent s'en passer. Alors, mon but n'est pas du tout de dire que tout doit être numérisé et numérisable, c'est pas du tout ça, mais ça fait partie des outils d'aujourd'hui, comme un jour le livre est apparu comme un outil qu'on utiliserait au quotidien dans l'enseignement. Et donc, c'est un outil parmi d'autres. Mais ne pas connaître cet outil dans, on va dire, la démarche pédagogique, ben je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un manque, en tout cas. Alors, je voudrais insister juste sur un autre aspect pour moi qui est important, et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que quand on parle aussi d'enseignement réussi, c'est parce qu'on a défini des objectifs, comme vous l'avez évoqué, et que le numérique est un des moyens pour atteindre ces objectifs. Mais je crois qu'on peut faire une distinction par rapport à la place du numérique dans l'éducation. Et souvent, moi, je la présente de la manière suivante, en disant qu'on peut faire de l'éducation par le numérique. Ça veut dire que les enseignants doivent être formés par des outils numériques. Donc, on a des outils qui vont aider les élèves à apprendre. Ce sont des outils. Mais on a aussi ce qu'on appelle l'éducation au numérique. Et l'éducation au numérique, ce n'est pas des outils. C'est par exemple comment on utilise bien les réseaux sociaux, comment on se comporte pour traiter les fake news, comment on crée une citoyenneté numérique. Et là, on peut faire du travail sans avoir aucun outil numérique, mais on réfléchit à comment les outils numériques ont un impact sur notre vie. Et donc, c'est une deuxième dimension, je veux dire, de la manière dont le numérique doit s'intégrer dans les pratiques pédagogiques. C'est d'une part en tant qu'outil, et souvent on le résume aux outils, mais surtout, et en plus, il faut qu'à côté de ça, on ait toute cette conscience de ce qu'il change au niveau de la vie sociale, de la vie intellectuelle, parce qu'on apprend, parce que les outils nous permettent d'accéder à plein d'informations, mais qu'est-ce que ça change au niveau de notre processus cognitif et de la manière dont les élèves apprennent. Pardon. Voilà. Donc, juste pour rajouter ce point-là, par rapport à le sens de réussite et de la manière dont le numérique permet de s'intégrer à cet objectif de réussite.
D'accord. Merci beaucoup.
Okay.
Merci beaucoup, oui. Monsieur Delièvre, je veux juste continuer cet aspect-là. Donc, il faut, comme Monsieur Arndt a aussi dit, différents champs et différentes activités pour arriver à un enseignement réussi ou assez réussi. Et donc, ma question maintenant, c'est aujourd'hui, dans ce moment-là, par quel facteur cette réalisation idéale est-elle entravée le plus? Donc, Monsieur Arndt a déjà mentionné l'administration un peu, donc peut-être vous pouvez juste élaborer aussi un petit peu quel est maintenant le défi et aussi le facteur qui l'entrave le plus.
Alors, je dirais qu'il y en a deux et qu'ils sont tout à fait cohérents avec ce que je viens d'évoquer du point de vue de la manière dont on peut entendre ce qu'est réussi. Bon, donc le premier niveau, c'est il faut un équipement minimal qui marche. Ça veut dire, si vous voulez que les enseignants utilisent le numérique, si vous ne leur mettez pas du Wi-Fi qui marche dans les écoles, si vous ne leur mettez pas un ordinateur qui va fonctionner, voilà, enfin, ils ne vont pas adhérer. Mais c'est minimal, c'est une condition pour que le reste puisse se faire. Après, ce n'est pas ça l'objet. Ça veut dire que tout le monde ne doit pas devenir un spécialiste de la technique. Donc ça, c'est le premier frein, on va dire. Le deuxième, c'est celui de la formation pour tout le monde au développement des compétences numériques. Et quand je parle de compétences numériques, ce ne sont pas que les outils. Et donc là, j'imagine que dans vos recherches, vous avez déjà évoqué ce que l'Union européenne a mis en place en termes de définition des compétences numériques, ce qu'on appelle le Digital Competencies for Educators. Et ça, c'est pour moi la référence européenne qui doit inspirer les différents pays pour qu'ensuite ils décident comment leurs citoyens doivent pouvoir développer des compétences numériques. Et donc, juste à titre d'exemple, ces compétences numériques, elles vont bien sûr quelque part, donc il y en a 21, 22 selon les formats. Une des 21, 22, c'est la programmation. Mais certains ne s'occupent que de la programmation. Mais il y en a d'autres qui sont comment apprendre à communiquer avec le numérique. Il y en a d'autres qui sont comment peut-on produire avec un outil numérique. Et donc, comment on peut réaliser une vidéo, simplement. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont toutes ces compétences qui doivent être développées à un moment ou à un autre. Et que ça, ça concerne tous les citoyens. Et donc, pour moi, le frein, il est d'une part, donc, comme je l'ai dit, dans une infrastructure technique minimale, et l'autre, d'autre part, il est dans la formation. Ça veut dire qu'il faut que ces compétences numériques, quelque part, dans notre cursus scolaire, depuis le plus tôt possible, ça fasse partie de la formation au même titre que d'autres choses. Donc, de nouveau, ce n'est pas pour remplacer, ce n'est pas pour dire « c'est ça qui est prioritaire », non, c'est pour dire que ça fait partie de la vie de chaque citoyen et donc ça doit apparaître dans les programmes. Juste à titre d'exemple, après j'arrête, pour la première fois en Belgique, il va y avoir un référentiel des compétences numériques pour les enfants de 3 à 15 ans. C'est la première fois que quelque chose sera écrit dans les programmes chez eux. Écrit ne veut pas encore dire formé, ça veut dire que c'est écrit pour que dans 12 ans, les premiers soient formés.
Ok. Peut-être que je peux bien y joindre quelques idées. D'abord, je suis très content que les démarches et les idées en Belgique et ici en Allemagne se sont très, très... se ressemblent beaucoup. Nous aussi, on a pris le cadre européen des compétences numériques d'un côté pour les citoyens, duquel on a développé aussi un cadre de compétences pour nos élèves. Et ça fait à peu près 3 ans qu'on vient de le publier. Et maintenant, on a terminé l'adaptation de tous nos programmes pour les écoles qui ne sont pas des écoles de formation, mais les écoles allgemeinen Schulen. Ah, vous savez ce que je veux dire. Là, on vient d'adapter tous les programmes de chaque matière où on a vraiment installé toutes ces compétences. On peut adapter du cadre européen des compétences numériques. Et le but pour tout cela, je peux bien souligner ce que monsieur De Lièvre vient de dire, parce qu'il a dit le numérique. Chez nous, on a marqué un slogan. En allemand, ça s'appelle Das Digitale soll unaufgeregter und selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts sein. Alors, le numérique doit être un part des cours sans excitation et très, comment on dit, habituel. Alors, il ne faut pas devenir il y a quelque chose de numérique, Non, c'est là comme toutes les autres choses. Et là, je suis très, très bien d'accord parce qu'on a fixé ces objectifs. Et maintenant, on a pris le cadre européen numérique pour les formateurs. Et là, on cherche encore des démarches qui sont vraiment puissantes pour l'installer dans la formation continue. Dans la formation continue, nous avons installé des cours en ligne aussi. D'un côté, pour que les professeurs puissent, pendant la pandémie, se former à la maison. Alors, la formation ne s'est pas arrêtée. Et c'était pour moi et le domaine pour lequel je suis responsable, c'était aussi un grand... Oui, c'était une chance d'intégrer des formats numériques dans la formation, parce qu'avant, là, on était un peu timide, disons, on a fait de petits progrès, mais maintenant, il fallait faire vraiment un grand progrès, et maintenant, c'est établi, et ça va pas on ne peut pas le virer, ça va rester maintenant. Maintenant, on a des formats de formation continue en ligne qui sont établis et qui vont rester pour les professeurs. Et ça, c'est un grand pas qu'on a réussi à faire là, grâce ou malgré Corona.
D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, Julia et moi, on a communiqué et on voudrait bien, parce que c'est tard, ouvrir la discussion pour tout le monde. On voudrait, c'est pas si important de suivre les questions. Ça veut dire qu'on a encore des questions, c'est pas un problème. Mais on voudrait bien discuter avec tous les participants. Peut-être, premièrement, en étudiant, après. Je dirais quelqu'un qui n'est plus étudiant. Et après, oui, on voudrait bien discuter avec tous les autres, peut-être pour les expériences aussi, pour les bénéficiaires du numérisation aussi, pour les défis, pardon. Ça ne va plus. Oui, on voudrait bien ouvrir la discussion. Si quelqu'un veut parler, il y a aussi des signes avec les réactions. Qui lève la main, c'est aussi possible et je vais choisir qui peut parler, qui veut parler. Si quelqu'un veut. Oui, monsieur Wittmann.
Bonjour, vous m'entendez? Je suis un peu un intrus dans votre colloque. Je viens de l'extérieur, mais j'ai des relations très étroites avec votre université. J'ai travaillé ensemble avec Ingo Kohlbaum. C'est un très bon ami de moi. Et j'ai écrit à l'époque, j'ai fait à l'époque un site internet, Romanistikum Internet, que j'ai d'abord eu avec, à l'université de Stuttgart, qui était plus tard à Dresden. Et quand il a été émérité, l'université avait effacer ce site. Ce n'est pas grave. Je voudrais vous dire une petite réflexion. Monsieur Delièvre, j'ai beaucoup admiré de vous écouter parce que la précision avec laquelle vous présentez vos réflexions sur le numérique, c'est extrêmement utile et je trouve que c'est un grand enrichissement aussi pour vos étudiants. Je voudrais vous dire que je suis l'auteur du Frankreich Blog, France Blog Info, et je voudrais aussi savoir si vous le connaissez. Est-ce que quelqu'un le connaît parmi vous? C'est France Blog Info, et je l'écris depuis 2006, avec 4 000 articles, et il y a beaucoup de tâches pour des élèves. Justement, votre sujet, comment peut-on travailler avec des élèves au cours de langue avec le numérique? Vous trouvez sur ce blog environ 400 articles avec des tâches pour des élèves. En ce qui concerne le numérique, je voudrais ajouter une petite réflexion. J'ai commencé mes études en 1976 à Paris 3 et ensuite à Sciences Po. Ensuite, j'ai fait l'histoire, sciences politiques, pédagogie, philosophie et l'histoire de l'art à l'université de Bonn jusqu'en 1984. Et j'ai commencé à y connaître les premiers effets du numérique. On a numérisé quelques poèmes pour faire des recherches linguistiques. Et sinon, par rapport à aujourd'hui, je dois dire que le numérique, à l'époque, pendant mes études, ne m'a pas du tout manqué. On n'aurait eu pas le temps de travailler avec ça. Le seul avantage, c'est peut-être une recherche sur la littérature. Et j'ai toujours dit à mes étudiants que la recherche avec la littérature et le numérique et l'Internet, c'est un peu comme le chercheur d'or en Amérique. Parce que les moyens ne sont toujours pas encore très sophistiqués. Je me rappelle un étudiant qui, en 3 ans encore, a dit à mon directeur de thèse à Cologne, « Je ne peux pas écrire un travail sur Balzac, je n'ai rien trouvé sur Internet. » Et plus tard, évidemment, j'ai travaillé dans une maison d'édition pendant 30 ans. J'ai développé des programmes et des logiciels pour l'apprentissage de langues. Et aussi, évidemment, le phare didactique avec tous les moyens, comment peut-on travailler, comment peut-on intéresser les élèves pour travailler avec les relations franco-allemandes. Là, vous trouvez, comme je vous ai dit, environ 400 articles sur mon blog. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Wittmann. On voudrait bien aussi écouter peut-être les expériences des étudiants. Comment vous avez passé le semestre dernier? En Dresde, par exemple, c'était un semestre numérique en total. Ça veut dire que nous n'avons pas visité l'université. Et oui, je voudrais bien savoir les expériences, peut-être premièrement Maria Fritsch, parce qu'elle est notre invitée, et après peut-être M. Neger, parce que je sais qu'il voudrait bien parler. Pardon.
Oui, ce semestre était un peu compliqué. C'était bien ce qu'on peut faire, notre stage à l'école. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir les élèves en classe, mais on peut créer des fiches de travail et proposer comme ça notre matériel. Mais c'était un peu compliqué et difficile pour moi parce que je n'avais pas eu la possibilité de parler avec les élèves avant ou voir leur visage. Et ça, c'était un peu compliqué, mais...
Merci. Pardon, mon micro ne fonctionne pas. Normalement. Oui, peut-être Monsieur Neger.
Oui, alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je veux bien ajouter encore quelque chose à la discussion, surtout, alors même si... je veux parler aussi de mon semestre, mais je suis tout à fait d'accord avec Maria Fritsch que c'est assez compliqué, mais en même temps intéressant. Et je crois, comme M. Wittmann a dit, peut-être à l'époque, ça n'a pas manqué, la numérisation. Par contre, ce semestre-là, je crois que tout le monde a bien vu que voilà, la numérisation, ça nous donne beaucoup. Et heureusement aussi, on a la numérisation aujourd'hui pour faire, par exemple, la discussion qu'on a fait en ce moment. Par contre, je veux bien parler encore un peu plus de l'actualité parce que je crois, dans la discussion, il m'a manqué une chose. Parce qu'on a parlé des compétences qu'il faut enseigner à des élèves. Par contre, moi, j'ai fait l'expérience que souvent, les élèves sont déjà bien éduqués concernant le point, et je vais bien revenir à des mots de M. Delièvre, concernant à l'éducation par la numérique. Parce qu'en fait, ils utilisent les portables, ils utilisent les ordinateurs assez souvent. Par contre, le plus important, c'est aussi l'éducation au numérique. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Martine Anne qui a dit, voilà, les compétences qu'on a fait il y a 3 ans, je crois, sont assez importantes pour le point l'éducation au numérique. Par contre, moi, je me demande quand même, est-ce que... l'éducation, et alors comme vous avez dit, il y a 3 ans pour les compétences, est-ce que l'éducation et les compétences comme ça peuvent suivre l'actualité ou est-ce que c'est impossible? Parce qu'en fait, je crois quand même, on a bien vu que pendant le dernier semestre, l'éducation a se bien développée. Et du coup, je me demande, est-ce que les compétences que vous avez publiées, est-ce qu'ils ont vraiment aidé à la réalisation de numérique pendant le semestre dernier, en fait? Et du coup, je veux bien ajouter ce point aussi à la discussion.
Est-ce que je dois répondre? Oui? OK. Oui, en fait, merci pour l'idée. Vous avez tout à fait raison. L'école peut jamais gagner le concours avec l'actualité. C'est impossible. Et ce n'est pas l'objectif de l'école. Mais il faut quand même considérer et intégrer les actualités. C'est pourquoi c'est toujours la question de quelle façon on est capable de formuler des compétences ou des objectifs pédagogiques assez abstraits pour être ouverte à un développement dans la société, etc., sans qu'il faut changer les programmes tous les 3 ans. Et là, avec ce cadre des compétences européens, on a quelques points de repère. Là, on est d'accord. Mais, par exemple, nous avons intégré tous ces points dans les programmes et quelques mois plus tard, j'étais avec tes confrères d'autres pays fédéraux, on a discuté ce cadre de compétences et on a dit, oui, en fait, il manque la question comment traiter les identités numériques pour les élèves. Alors, c'était un point qui n'était pas assez clairement fixé dans le premier cadre européen. Et maintenant, c'est aussi un point qui manque un peu dans notre cadre de compétences. Et c'est toujours comme ça. On va le remarquer. On va dire, OK, la prochaine fois, il faut peut-être ajouter quelque chose. Ou il faut dire, non, on va réduire toutes ces descriptions pour rester plus abstraites, pour dire, oui, ce sont les compétences nécessaires pour vivre et participer dans une société numérisée, numérique, comme vous voulez dire. Et c'est un peu le grand défi de trouver là un chemin qui est assez précis et assez abstrait pour inclure aussi le futur.
Si je peux compléter par rapport aux réflexions qui ont été émises, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Arndt vient de dire. Alors moi, je voulais insister par rapport à ce que Mme Fritsch a évoqué sur le fait qu'aujourd'hui, même à distance, on peut parler de présence. C'est-à-dire que vous êtes dans un auditoire, tous les étudiants sont là. Si l'enseignant parle à tous ses étudiants et que les étudiants doivent simplement écouter, sont-ils actifs? De la même manière, si vos étudiants sont à distance, que vous leur parlez via la vidéo, sont-ils actifs? Pas plus, sauf que vous ne les voyez pas nécessairement, qu'ils peuvent s'endormir en coupant leur caméra, ça ne gênera personne. Par contre, si en auditoire, vous faites interagir les étudiants avec, par exemple, des boîtiers de vote électronique, vous leur faites faire des activités, même quand les groupes sont importants, là, les étudiants sont actifs et font en auditoire des choses. À distance, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous prévoyez comme enseignant, comme scénario, qui va prévoir des activités pour les étudiants, pour les élèves? Et donc, la question n'est pas tellement celle du numérique, la question est celle du scénario pédagogique. Ça veut dire, est-ce que le scénario pédagogique intègre les étudiants dans une séquence de 1 heure ou de 2 heures? Si l'étudiant doit simplement écouter, pour moi, il n'est pas nécessairement très actif. Alors, il y a parfois des orateurs très brillants qui peuvent tenir un auditoire pendant 2 heures, mais ce sont des exceptions. Moi, je pense qu'un enseignant, aujourd'hui, on sait que le temps d'attention, il est de 20 minutes. Moi, j'essaye dans mes cours de changer toutes les 20 minutes quelque chose. Je parle 20 minutes, je fais une activité 5-10 minutes, je reparle 20 minutes. Mais au moins, il y a une variété, au moins, il y a un temps d'activité pour l'après. Bon, après, ce n'est pas parfait, ce n'est pas du tout ça. Mais voilà, quel est le scénario? Donc ça, je pense que c'est important. Et donc, on peut créer de la présence à distance. L'autre chose par rapport à ce que vous disiez, M. Nerger, c'est la question de la compétence acquise que les étudiants auraient maintenant par rapport à ces outils numériques. Alors, de plus en plus, et je pense que tous les spécialistes sont d'accord avec ça, le mythe de la génération qui maîtrise les outils numériques, eh bien, oui, il est à démonter complètement. Parce que, bien sûr que tout le monde aujourd'hui est de plus en plus, et peut-être encore plus les jeunes qui naissent avec un smartphone dans la main, ils maîtrisent certains usages des outils numériques. Mais pour autant, maîtrisent-ils les usages que l'enseignant voudrait utiliser dans un dispositif de formation? La réponse, elle est non. Et nous, souvent, pour un peu, on va dire, trouver une métaphore pour expliquer ça, les étudiants, ils connaissent des usages ludiques, ils savent comment jouer avec leur ordinateur, ils savent comment rechercher des informations de type vidéo. Voilà. On dit comment passer de l'usage ado, pour adolescent, vers l'usage adulte. Et donc, comment passer de l'usage ado à l'usage adulte? Et donc, ils ont une connaissance, bien sûr. Mais cette connaissance n'est pas suffisante pour pouvoir bien l'intégrer dans leur pratique d'étudiant. Et ça, ça s'apprend aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut acquérir progressivement grâce à ce que les enseignants ont eu comme formation et peuvent ensuite inculquer, proposer à leurs étudiants. Mais, de nouveau, parler de la génération Y ou Z ou peu importe, c'est parler de leur maîtrise technique. Mais leur maîtrise technique n'est pas la maîtrise technique dans un contexte qui est celui de l'apprentissage. C'est dans le contexte de l'apprentissage qu'il convient de les former et que donc les enseignants soient au fait de comment les former, comment utiliser ces outils-là pour atteindre des objectifs de nouveau. C'est ça l'enseignement, c'est atteindre des objectifs et les moyens doivent être proportionnels à ces objectifs.
Monsieur Delièvre, oui. Je veux juste, merci beaucoup, je veux juste retourner encore une fois peut-être sur un pas en arrière, donc sur le niveau social. Donc peut-être Louise, comme tu es en Hongrie, et Cassandra et moi, on connaît seulement le Maroc, qui est avec Internet aussi vraiment difficile. Donc, on connaît seulement le Maroc et l'Allemagne. Même ici, il y a les problèmes avec Internet et aussi avec les problèmes techniques toujours pendant les séminaires. Donc, je veux juste retourner au niveau social. Donc, quels inconvénients a cet enseignement numérique par rapport aux endroits, pays, peut-être situation financière des parents, des étudiants. Donc, quelles expériences as-tu fait?
Du coup, moi, au niveau du dernier semestre, j'ai fait mes études en Hongrie. J'ai l'avantage d'être dans une relativement grande ville. Mais c'est vrai que du coup, les problèmes de connexion Internet, j'ai aussi été confrontée au fait d'utiliser différentes plateformes. Et donc, c'est vrai qu'au début, je me suis retrouvée avec une dizaine de cours sur 5 plateformes différentes. C'est vrai que les premiers cours, ça a été vraiment compliqué puisque il y a toujours l'adaptation à la plateforme. C'est plus ou moins les mêmes fonctionnalités, mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses un peu différentes. Des problèmes de micro, les problèmes qui peuvent venir. Je voulais par contre revenir sur tout ce qui était autour des compétences numériques justement au niveau européen. Et moi, à mon niveau, au niveau de ma fac en France, donc au niveau de l'Université de Rouen, je sais que j'en ai eu connaissance que ça existait et moi, j'ai voulu les faire valider de moi-même. Mais c'était quelque chose qui était assez... on va dire très peu d'étudiants le faisaient et c'était pas du tout mis en avant, en fait. Ça existait, mais malheureusement de manière assez marginale et si les étudiants n'étaient pas volontaires pour ce genre de choses, ça restait très très peu développé, on va dire. Donc même au niveau connaissances, l'université n'en parle pas forcément et il fallait vraiment se renseigner pour en prendre connaissance. Donc je suis d'accord sur le fait que du coup en tant qu'après futurs enseignants, si déjà au départ on n'a pas forcément ces compétences-là, c'est plus compliqué puisqu'on peut avoir beaucoup de bonnes idées, mais après la mise en place n'est pas forcément toujours évidente.
Oui, moi j'ai aussi des problèmes de micro, je ne sais pas pourquoi. Vous m'entendez maintenant ? D'accord. Donc, merci beaucoup. Oui, ce sont ces problèmes-là, ouais. Et en ce qui concerne peut-être les écoles, mais aussi les universités. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent dire quelque chose tout autour le problème social, les problèmes techniques, peut-être un peu le quotidien dans l'enseignement numérique? Peut-être ceux qui n'ont pas encore parlé, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou introduire un autre aspect? Oui, monsieur Pauli?
Oui, peut-être. Je veux bien revenir à monsieur Lèvre. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que la génération Y, ils ont bien des compétences comment faire avec les outils, mais pas vraiment tout le reste. Moi, je pense que, concernant les droits, je vais recommencer que le problème de la génération Y est qu'ils ne savent pas comment apprendre avec les outils. Est-ce que je vous ai bien compris? Oui. Mais moi, j'ai gagné la même impression. En fait, j'ai l'impression qu'ils savent très bien comment solver des problèmes dans l'immédiat et pas vraiment apprendre et savoir refaire des choses plus tard et comment le faire peut-être sans l'outil ou des choses. J'ai une petite épisode qui est un peu drôle, peut-être. Je viens d'avoir commencé à travailler comme professeur à Prague. Je travaille dans une école privée comme prof de l'allemand, de français, la musique, les théâtres et les beaux-arts. C'est tout dans le même truc. Et je fais les élèves, ils font un petit PD sur une légende. Et la légende, elle est en anglais parce que dans cette école-là, tous les matières qui ne sont pas la langue tchèque, ils sont en anglais, alors la légende, elle est en tchèque tout. Et il y a une nouvelle élève là, elle ne parle si bien anglais que le reste. Et moi, j'ai pensé, tu la donnes en tablette et elle va utiliser l'application pour traduire mot à mot comme un dictionnaire. Comme ça, elle peut apprendre comment faire avec un dictionnaire sur l'application, comment utiliser l'outil. Et peut-être elle apprend aussi un petit peu l'anglais. Mais elle a pris en photo et l'application, elle a traduit le photo. La légende, en tout cas, et bien sûr, elle a solué le problème. C'était, il faut dessiner, on peut dessiner sur une légende ou quoi, elle ne comprend pas bien. Elle a solué le problème, mais elle n'a vraiment pas appris un mot d'anglais dans cela parce que les applications, elles sont devenues très bien. Oui, c'était ça, c'était la petite épisode que je pensais peut-être peut enrichir la discussion un petit peu.
Si je peux me permettre de réagir brièvement, d'abord, merci beaucoup pour les témoignages. Je pense que des témoignages comme ça, on va en trouver un peu partout. Et donc, on va trouver, bien sûr, des exemples qui montrent que rien n'est évident pour personne. Et donc, tout le monde doit apprendre à utiliser ces outils pour, dans son métier, les utiliser au mieux. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose auquel les enseignants doivent bien songer, c'est que même si les plus jeunes ont peut-être une culture différente des plus âgés, elle peut aussi être très utile. Alors, je prends un exemple, évidemment, qui est très personnel. C'est, moi, je connais un jeune garçon qui, vraiment, il va s'intéresser avec des vidéos YouTube à des sujets qu'à l'école, on lui présente parfois vraiment pas bien. Et sur les vidéos, c'est tellement bien fait qu'il dit, mais pourquoi les profs ne nous expliquent pas aussi bien que ça? Et donc, qu'est-ce que ça nous inspire à nous comme profs de savoir qu'autre part, il y a des gens qui donnent des explications et que ces explications, les gens les trouvent bien faites. Alors après, il faut bien sûr se dire qu'elles doivent être validées. Enfin voilà. Il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Mais il ne faut pas croire non plus que c'est tout blanc ou tout noir. C'est ça que je veux dire. C'est que bien sûr qu'il y a des usages que les plus jeunes ne maîtrisent peut-être pas, mais peut-être qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre en tant qu'enseignants dans les usages qu'ils font des outils numériques aujourd'hui. Et que ça aussi, on doit le prendre. Et on doit en faire quelque chose pour après, mais peut-être réintéresser les jeunes à des sujets qui, par la technologie, vont peut-être les intéresser parce qu'ils auront un format qui correspondra mieux à ce qu'ils connaissent d'habitude. Donc, je crois que tout est nuancé, en fait. Je ne crois pas qu'il y a une vérité blanche ou noire. Je pense que tout est un peu en construction et que donc, il faut accepter ça et s'intéresser à tout et s'enrichir de tout.
Oui. Merci pour toutes les réponses. Je voudrais bien continuer, mais quand même, on a plané d'avoir notre débat pour 60 minutes. Et maintenant, c'est presque 18 heures. Je voudrais bien poser une dernière question comme conclusion. Et la question, c'est avez-vous, comme notre invité, un conseil pour les profs, mais peut-être aussi pour les élèves et les étudiants et étudiantes pour se débrouiller du temps de numérisation? Peut-être, M. Hart, vous étiez un peu muet.
En fait, pour terminer, pour les germanophones, je vous conseille ou recommande de consulter notre page internet www.medienbildung.sachsen.de. Là, vous trouvez toutes nos informations qui sont, à mon avis, très importantes pour tous les professeurs, parce que les professeurs, ça c'est pour moi un peu la difficulté de la formation, sont formés dans deux ou trois matières. Pour moi, un professeur devait être formé en tant que professeur de lycée ou professeur de collège, avec tous les objectifs d'un lycée, d'un collège. Et ça, c'est l'éducation aux médias, ça, c'est la politique, la démocratie, ça, c'est le développement durable, etc. Ce sont des sujets très, très importants dans notre société et notre temps qui ne sont pas toujours représentés par les matières qu'on enseigne, parce que c'est toujours comme ça. Alors, il faut trouver dans toutes ces matières une démarche de servir à des objectifs qui sont plus larges que l'anglais, le français, l'art, etc. Et ça, c'est pour moi très, très important. Et si on va un jour arriver à des idées comme ça, à se débarrasser, mais de se libérer un peu des frontières, des matières pour mieux pouvoir intégrer les vrais défis de notre temps dans l'éducation à l'école, on aura fait un grand pas, à mon avis. Et ainsi, on peut bien fermer cette parenthèse en disant le numérique, c'est un exemple pour les défis dans notre société et l'éducation qu'on pourrait aussi discuter avec beaucoup d'autres, soit l'intégration, l'éducation inclusive, etc. Et voilà, bonne chance.
Merci. Oui, Monsieur Pauli, si vous voulez ajouter.
J'ai un truc avec cela. Oui, alors, les professeurs, nous devrions nous enseigner tout ça. Quand est-ce que nous devons faire cela? Moi, comme j'ai dit, j'ai justement commencé à travailler comme prof. Et l'école là-bas, il est très numérisé, comment dire. Et en ce moment, je suis déjà occupé 60 à 70 heures par semaine en préparant tout cela, sans extra faire de m'enseigner moi-même avec tout cela. C'est toujours l'argument le premier, comment faire, nanana. Je ne peux pas géminer trop parce que ça fait part de ma formation. Mais moi, je viens d'avoir reçu mon premier Staatsexamen cet été. Et moi, je ne suis pas capable de... Je pense que je suis assez compétent pour utiliser les outils comme part utile à aider l'apprentissage, mais moi, je ne me sens pas capable comme Monsieur Léadre a dit, au apprentissage, à l'apprentissage des compétences numériques. Alors, quoi faire?
Oui, c'est comme un puzzle. Il y a tous les professeurs qui donnent un morceau, qui ajoutent un morceau dans ce puzzle. Mais il faut avoir quelqu'un qui donne cette vue générale, qui dit, alors les élèves, est-ce que vous savez que l'art, en art plastique, vous venez d'apprendre un morceau de ce puzzle qui rentre dans votre éducation aux médias? Et là, il y a des matières qui sont, disons, qui sont plus... qui intègrent ces buts mieux que d'autres. Disons, ce n'est pas toujours l'informatique. Je ne suis pas un grand ami de cette question. Ah oui, l'informatique, ils vont tous faire. Parce que dans les dernières années, c'était comme ça. En informatique, ils ont fait des présentations PowerPoint. C'est pas l'informatique. Et alors, il faut trouver des matières qui sont responsables pour ça. Et là, à mon avis, on a trouvé une démarche qui est encore très, très, trop progressif, mais qui a quand même fait des pas importants. Et pour les professeurs, avec des matières précises, oui, c'est beaucoup. D'abord, il faut bien maîtriser son matière. Mais si un jour, vous vous posez la question, est-ce qu'en enseignant l'allemand, est-ce que j'ai jamais pensé à la question du développement durable, du numérique, de l'intégration, je pourrais dire encore plus d'autres sujets. Là, il y a quelque chose qui ne va pas très bien, si c'est comme ça. Alors, un jour, il faut arriver à ce point que vous appreniez d'utiliser votre matière que vous enseignez pour transporter toutes ces idées.
Mais c'est la meilleure réponse que je n'ai jamais entendue à cette question-là. Merci beaucoup.
Oui, je voudrais aussi dire que je pense ce point de vue très positif en avenir est une bonne terminaison pour ce débat. Donc, vous voyez, il y a beaucoup à discuter et je pense que ce thème reste très important dans le quotidien, dans le travail comme futur prof, soit à l'école, soit à l'université. Soit avec les petits-enfants, donc ça reste important. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre participation à ce débat. Oui, peut-être M. Delièvre veut dire encore quelque chose pour finir le débat.
Une dernière chose, et puis après, je vous remercie, ça dure une minute. Je pense que, j'avais un peu pensé à la réponse qu'on pouvait faire à M. Paulik aussi, c'est... Pour moi, il y a deux termes qu'on peut utiliser qui peuvent, d'une part, dynamiser les enseignants et d'autre part, les rassurer. D'autre part, je pense qu'il faut être ambitieux. Et là, je rejoins pleinement M. Arndt en disant qu'il faut avoir des objectifs qui vont plus loin que là où on est aujourd'hui, qui intègrent mieux les choses, qui sont plus transversaux. Enfin, voilà. Donc, il faut être ambitieux. Mais il faut aussi être modeste. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps, ni vouloir tout faire. Et donc, il faut sans doute avancer pas à pas, petit à petit. Et c'est comme ça qu'on y arrive aussi. Et donc, je crois qu'il faut essayer d'avoir ces deux postures d'ambition et en même temps de modestie, parce que voilà, personne n'a la solution. Mais si tout le monde avance en ayant des objectifs ambitieux, je crois qu'on peut arriver à quelque chose de très constructif. Et merci beaucoup donc pour et l'invitation et la participation au débat et la richesse de cette discussion. Merci.
D'accord. Donc, on vous remercie tous les participants et toutes les participantes. Et oui, je vous souhaite une bonne journée. Et s'il y a encore les questions ou les opinions supplémentaires, je pense qu'on peut rester en contact et je pense qu'on va aussi évaluer et aussi développer ce thème-là parce que oui. Comme ça reste actuel dans cette situation. Ouais. D'accord. Donc, merci à tous et à toutes.
Merci
beaucoup. Merci.
Au revoir.